Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici tout de suite les titres. Le Premier ministre tchèque appelle à l'arrêt immédiat des violences en Libye. Une majorité de Tchèques se prononce pour le suffrage universel direct pour les élections présidentielles. Et puis en football, l'entraîneur du Sparta Prague a été suspendu pour 10 semaines. Le Premier ministre tchèque Petr Nečas a appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des violences en Libye. Le chef du gouvernement a déclaré que l'emploi de la force contre la population civile était une violation flagrante des droits de l'homme qui n'avait pas sa place dans un monde civilisé. Monsieur Nečas a ajouté que la République tchèque était choquée par la brutalité du régime envers les manifestants. Ces déclarations ont été publiées quelques heures après celles du ministre tchèque des Affaires étrangères, qui a vivement réfuté certaines informations selon lesquelles il aurait apporté un quelconque soutien au colonel Kadhafi. Karel Schwarzenberg a tenu à préciser que ces déclarations faites à Bruxelles n'avaient pas été correctement citées. Les médecins hospitaliers tchèques ayant participé à la campagne « Merci, on s'en va » retirent massivement leur démission après avoir imposé leurs revendications salariales. Dans le cadre de cette campagne, vous savez, quelques 3800 médecins hospitaliers avaient donné leur démission, ce qui risquait de paralyser les hôpitaux tchèques. Le Conseil des ministres demain doit discuter de l'accord passé entre le ministre de la Santé Leoš Heger et les représentants des médecins. Le producteur de yaourts et de produits laitiers français Yoplait a décidé de fermer son usine dans la commune de Slušovice en République tchèque. La société transférera la production de ses produits en France et licenciera 99 employés de son usine tchèque. La société a déjà promis d'aider les licenciés à trouver de nouveaux emplois. La succursale avait été fondée en République tchèque en 1995. Elle s'appelait alors Gala Slušovice après avoir adopté ensuite, un an après, l'appellation de Yoplait. 60% des personnes interrogées se sont prononcées pour l'élection présidentielle directe en République tchèque. Jusqu'à présent, vous le savez, le président est élu par les deux chambres du Parlement. Selon le Centre pour l'opinion publique CVVM, 17% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête se sont déclarées favorables à l'élection par le Parlement et 13% estiment que le président de la République devrait être élu par une assemblée d'électeurs. L'introduction du suffrage universel direct pour les présidentielles est envisagée par les principaux partis représentés au Parlement. Du sport avec du football, ou enfin une affaire qui concerne le football, et Josef Rovanec, l'entraîneur du Sparta Prague, qui a été suspendu 10 semaines pour avoir aligné sous une fausse identité deux joueurs, les attaquants Václav Kadlec et Tomáš Pekárt, ayant auparavant déclaré forfait pour une rencontre de l'équipe internationale Espoir. C'est ce qu'a annoncé la Fédération tchèque de football. L'entraîneur du Sparta ne pourra pas diriger son équipe jusqu'au 7 mai prochain. Par ailleurs, les deux joueurs incriminés ont été suspendus pour deux rencontres, alors que le club, lui, a écopé d'une amende d'environ 30 000 euros. Et puis la météo avec un ciel toujours partiellement couvert et des températures comprises entre moins 6 et moins 2 degrés. Ce sont les prévisions pour ce mercredi en République tchèque. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez Magdalena Hrozinková et moi je vous retrouve dans quelques minutes pour une prochaine édition de l'émission Panorama.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis pour ce bulletin d'information. Les relations entre Prague et Varsovie sont à la une de l'actualité tchèque. Le président Václav Klaus a reçu lundi son homologue polonais Bronislav Komorowski au château de Prague. Une occasion pour les deux chefs d'État de s'exprimer entre autres sur la situation en Libye. Les propos du ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg sur les répressions sanglantes dans ce pays ont été mal interprétés par certains médias européens. Nous en parlerons dans cette émission. Des intérêts communs de la Pologne et de la République tchèque et des expériences historiques similaires et une coopération économique intensive, tels sont, selon les présidents Bronislav Komorowski et Václav Klaus, les piliers des excellentes relations existant entre leurs pays respectifs. Les rapports économiques pourraient être cependant encore plus intensifs. Les chefs d'État polonais et tchèques ont fait ces constatations à l'issue de leur rencontre ce lundi au château de Prague. Václav Richter.
Bien que le mandat de Bronislav Komorowski n'ait commencé qu'il y a un an à peine, c'est déjà pour la troisième fois pendant cette courte période qu'il se rend en République tchèque, mais cette fois-ci, il s'agit de sa première visite officielle.
Bardzo lubię Czechów.
J'aime beaucoup les Tchèques, dit-il. Cette sympathie est partagée, à en croire les derniers sondages d'opinion, par un grand nombre de ses compatriotes. Elle s'est reflétée d'ailleurs dans le déroulement de toute sa visite en République tchèque. Le président a souligné qu'il aimait non seulement ce que les Tchèques ont en commun avec les Polonais, mais aussi les différences entre les deux peuples et s'est félicité de la qualité des rapports entre la Pologne et la Tchéquie. C'est pourquoi, selon Bronisław Komorowski, la Pologne désire s'engager davantage dans les relations avec la Tchéquie dans les domaines politiques, économiques et culturels. Les deux pays auront bientôt l'occasion de profiter de leurs rapports privilégiés pendant la période où la Pologne présidera l'Union européenne et la Tchéquie le groupe de Visegrad qui réunit quatre pays d'Europe centrale. La Pologne assumera la présidence de l'Union à partir de la deuxième moitié de cette année. Bronisław Komorowski et Václav Klaus ont également évoqué des projets concrets de la coopération entre les deux pays. Il s'avère que les Polonais s'engagent en Tchéquie notamment dans les industries énergétiques et pétrolières, a déclaré entre autres le chef d'État polonais. Il considère aussi comme très prometteuse la construction de l'interconnecteur qui reliera des gazoducs en République tchèque et en Pologne, avis partagé par Václav Klaus.
Je comprends que pour la Pologne, qui ne disposait jusqu'à présent que du gazoduc Est-Ouest, il est très important de disposer désormais d'un gazoduc Nord-Sud. C'est une chose très importante. Je considère aussi comme très important qu'on achève l'année prochaine l'autoroute entre les villes de Bohumín et de Gliwice.
La Tchéquie désire également participer à l'appel d'offres en vue de l'achat d'avions d'exercice pour l'armée polonaise. Elle envisage de proposer à la Pologne ses avions de combat subsoniques L-159. Les intérêts communs et la coordination de la politique des deux pays vis-à-vis de l'Union européenne ont été aussi à l'ordre du jour de la rencontre ce mardi entre le chef d'État polonais et le premier ministre tchèque Petr Nečas. Le président polonais a également rencontré les présidents des deux chambres du Parlement tchèque et des délégués des ressortissants polonais vivant en Tchéquie.
La position de l'Union européenne face aux révoltes actuelles en Libye a été évidemment évoquée lundi à Prague par les chefs d'État tchèques et polonais, Václav Klaus et Bronisław Komorowski. Ils ont formulé toutes eux des objections vis-à-vis de Bruxelles, Bronisław Komorowski parlant d'un certain déficit de préparation de l'Union européenne. Il s'attend à ce que les événements en Libye influencent la présidence polonaise de l'Europe au cours du deuxième semestre de 2011. Václav Klaus a ciblé dans sa critique l'Europe de l'Ouest.
Ce n'est pas un hasard que les interventions les plus brutales des autorités, de l'armée et de la police aient eu lieu justement en Libye. On parle de dictature en Tunisie et en Égypte, mais je crois que la réaction des autorités locales a bien démontré que la Libye représentait un autre type de dictature. Je ne sais pas quelle sera la réaction de l'Union européenne. J'ai assisté au sommet Union européenne-Afrique qui s'est tenu en novembre dernier à Tripoli sous la présidence de Monsieur Kadhafi. Je dois dire que les présidents et premiers ministres des pays d'Europe centrale et orientale ont adopté à son égard une attitude réticente et vigilante. En revanche, l'attitude de certains chefs d'État et de gouvernement des pays d'Europe occidentale vis-à-vis de Monsieur Kadhafi était visiblement très amicale. Alors je pense qu'actuellement, ils vont avoir des problèmes.
La presse tchèque de ce mardi commente le malentendu créé par les propos du ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg. Cité par le serveur EU Observer, le chef de la diplomatie tchèque aurait préféré que l'Europe ne se mêle pas activement de la situation afin de ne pas la compliquer davantage. Il aurait même estimé que la chute de Muammar Kadhafi pourrait entraîner d'autres catastrophes plus grandes dans le monde. Suite à ces déclarations démenties lundi par Karel Schwarzenberg, le site EU Observer a constaté, je cite, que l'Italie et la République tchèque soutenaient le régime de Kadhafi en dépit des répressions sanglantes. une interprétation que le chef de la diplomatie tchèque a qualifiée de sottise. Je n'ai pas dit que la chute de Kadhafi serait une catastrophe. Bien au contraire, s'il est remplacé par un régime raisonnable, cela pourrait beaucoup apporter, a déclaré Karel Schwarzenberg. D'après Zbigniew Petráček du quotidien Lidové Noviny, Karel Schwarzenberg laisse entendre que l'Union européenne ne devrait pas compter sur les rebelles avant de savoir exactement qui les dirige. Et le journaliste de remarquer que le chef de la diplomatie devrait dorénavant s'exprimer plus clairement, surtout sur des affaires aussi sensibles. Pour qu'aucun doute ne subsiste au sujet de la position tchèque, le Premier ministre Petr Nečas s'est dit ce mardi bouleversé par la brutalité de la réaction du régime libyen aux manifestations. Les massacres perpétrés contre les civils sont une violation inouïe des droits de l'homme. Ils n'ont pas de place dans le monde civilisé, a déclaré le Premier ministre tchèque. Dans l'émission Panorama aujourd'hui, suite de l'entretien réalisé par Alexis Rosenzweig avec un sociologue français installé à Prague, Mathieu Plaisia vient de publier un livre intitulé « Les Tziganes » et tiré de sa thèse de sociologie pour laquelle il a fait des recherches sur le terrain en République tchèque. Des recherches qui l'ont notamment mené à Kladno, dont 300 localités d'exclusion sociale répertoriées par une étude commandée par le gouvernement tchèque. Mathieu Plaisia a d'abord parlé de cette expérience avec les Roms en Bohême centrale, avant de parler de ses futurs projets.
Un des principaux résultats de mes observations et de mes enquêtes sur le terrain, c'est tout d'abord de montrer que, en dépit de l'homogénéité de ces espaces, comme on peut les décrire, finalement c'est surtout la diversité des conflits qui prédominent. La diversité entre les personnes qui y résident, non seulement les modes d'identification, certains se disent tziganes, d'autres se disent Roms, d'autres tous se disent tchèques à un moment donné. Il y a les nouveaux, ceux qui viennent de Slovaquie, qui viennent rejoindre des parents, puisque dans le cas de Kladno, la majorité viennent de Michalovce. Il y a aussi des dissensions entre ceux qui sont les plus aisés dans ces localités. Ceci est relatif, puisque finalement, ils n'ont pas de beaucoup de biens, mais ceux qui sont un peu plus aisés que les autres se considèrent plus dominants. Ils reproduisent en quelque sorte le discours de la société environnante pour le retourner contre leurs voisins. Par exemple, ceux qui ont la peau un peu plus pâle que les autres considèrent les plus noirs de peau comme les plus sales et les plus dégradants, etc. Il y a en fait une grande diversité et, par exemple, phénomène très intéressant, c'est que la génération des personnes qui ont fait leurs études, qui ont fait leur scolarité sous le communisme, ont appris à désapprendre la langue romani que leurs parents, migrants alors de Slovaquie, leur avaient transmis. Et leurs enfants, leurs jeunes enfants, dans le cadre contraignant de cet espace, qui est la localité de Kladno par exemple, réapprennent le romani entre eux, alors que leurs parents avaient appris à le désapprendre. Donc il y a en fait beaucoup, beaucoup de diversité, beaucoup de modes d'identification diverses, comme par exemple l'appropriation de ces espaces, espace qui est rejeté dans le cadre des adultes, qui eux n'ont pas habité jusqu'à récemment dans ce type d'espace, puisqu'ils habitaient au centre-ville, ils habitaient parmi les blancs, comme ils disent. Cet espace n'est pas approprié, cet espace est rejeté, contrairement aux plus jeunes, qui le considèrent comme un territoire, puisque c'est à l'intérieur de cet espace qu'ils sont nés, qu'ils ont évolué, ils se l'approprient. Et je pense que ce qui est en voie de se passer dans ces localités d'exclusion sociale, c'est en fait la création inédite en Europe de ghettos sociaux, qu'on définit en sociologie comme la cumulation d'une ségrégation sociale, les plus pauvres, et une ségrégation ethnique, ceux qui sont stigmatisés racialement. L'accumulation de ces deux ségrégations produit des ghettos, et je pense qu'en effet, ce qui est en voie de se passer en République tchèque, c'est la création de véritables lieux de ségrégation en bordure des villes, avec des enfants, une génération qui naît dans ces espaces, qui ira, à mon avis, de plus en plus loin dans les formes extrêmes de marginalisation et de violence.
des parents dont vous parliez, qui c'est aussi ce qui ressort dans quelques-uns des entretiens que vous avez réalisés, qui en arrivent à regretter le communisme.
C'est une question très intéressante, en effet, de poser la question sur les régimes, sur l'observation de ces personnes, de leur propre analyse de la souffrance sociale dont ils sont les victimes, puisque peu d'entre eux ont des outils pour comprendre la réalité, les mécanismes qui sont en jeu dans leur expérience quotidienne. La plupart, finalement, invoquent les préjugés raciaux dont ils sont victimes. C'est-à-dire, oui, c'est parce que nous sommes noirs, c'est parce que nous sommes tziganes que nous sommes comme ça. Certains d'entre eux critiquent directement ce qu'ils appellent la démocratie. Alors, la démocratie, je pense qu'il s'agit surtout d'entendre le système libéral, libéraliste, ultra-libéral, dont ils ont été les principales victimes, puisque la majorité d'entre eux sont les plus pauvres de la société tchèque. Et certains d'entre eux, puisque je me garderai de toute forme de généralisation, sont nostalgiques du communisme, en effet, en pointant l'aspect, la garantie d'un travail pour tous, la garantie d'un logement, bien sûr, tout en étant conscient des formes de coercitifs extrêmes et de la réduction de toute forme de liberté.
Question peut-être un petit peu plus personnelle, est-ce que, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que c'est difficile de travailler pendant longtemps sur ce sujet, parce que les situations semblent parfois inextricables, même qu'on essaie de pas être pessimiste, quand même l'évolution ces dernières années n'est pas vraiment rose, et il est parfois difficile, même les travailleurs sociaux, dans les ONG, on sent parfois parmi ceux qu'on rencontre que c'est vraiment moralement très difficile. Est-ce que ça vous a... Bon, toujours quand on travaille sur une thèse pendant longtemps, déjà il y a des phases plutôt moins bonnes que d'autres, mais sur un sujet comme ça, il doit y avoir des phases particulièrement difficiles.
Alors, personnellement, c'est le plus difficile, c'est l'attachement qu'on a auprès des personnes. Le fait d'être invité à rester à la maison, d'être apprécié par les enfants, d'être avec eux, d'être impuissant, puisqu'on est souvent... Moi, j'ai été très sollicité sur l'aspect appliqué de ma recherche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Voilà, c'est l'aspect le plus touchant. Et puis aussi parfois la violence de rencontres qu'on peut faire d'autres à l'extérieur de ces espaces, la réaction violente, raciste, agressive, finalement complètement déconnectée avec la réalité de ces personnes. C'est ce double aspect qui est finalement le plus difficile à gérer dans la recherche. Pour l'aspect appliqué, j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs sociaux qui sont conscients d'être impuissants, d'être dans les tranchées de contradictions béantes, d'être dans les tranchées des applications de politiques qui reposent sur des diagnostics, sur des expertises très mal faites, qui répondent juste au court terme, qui répondent et qui s'inscrivent dans une problématique dont on peut maintenant finalement interroger le bien fondé, qui est celui de l'intégration. Est-ce la question qu'on doit se poser? Est-ce qu'on doit poser cette question de cette manière? C'est des questions que je soulève dans ces deux ouvrages. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une troisième manière, une autre manière de poser les choses? C'est du moins les questions que je pose, mais qui nécessitent des recherches sur le long terme, puisqu'il s'agit de mécanismes qui sont profondément ancrés dans la société, qui reposent sur des logiques historiques complexes, et qui ne pourront être appréhendés ou du moins solutionnés que sur des périodes très longues.
Vous avez des idées sur cette troisième voie ou vous posez des questions?
C'est du moins le choix de mon troisième terrain de recherche, puisque j'avais décidé d'indiquer les limites ou contradictions inhérentes à ces deux politiques, la politique multiculturelle et la politique d'intégration sociale, de lutte contre l'exclusion sociale, en choisissant les deux premiers terrains, la localité d'exclusion sociale à Clanno et un musée ethnographique de la culture rome.
À Brno.
Le troisième terrain me permettait finalement, entre la négation de l'identité rome-tzigane la négation de tout aspect ethnique ou, de l'autre côté, une forme de fétichisation de cette nation, d'essayer de voir finalement comment dans les interactions quotidiennes ou dans des espaces particuliers, les individus s'identifient ou s'opposent selon une grammaire qui leur est propre. Et c'est le but, ça a été le but de mon enquête pendant 3 ans au sein d'un club de boxe à Jichkov, d'observer les relations entre les boxeurs tziganes et non tziganes, pour voir finalement comment dans certains espaces très particuliers, cette frontière ethnique, cette distinction entre les deux peut complètement disparaître, au point de ne pas pouvoir distinguer qui est tzigane de qui ne l'est pas, et parfois réapparaître selon les besoins des acteurs, selon les besoins des personnes dans des situations d'interaction particulières. Et je crois que plutôt que de décider de politiser sur de l'ethnique, plutôt que de faire des politiques ethniques ou de nier radicalement l'aspect ethnique des relations, je crois que laisser les personnes libres et acteurs de les formes d'identification est, me semble, la meilleure, une des pistes à envisager.
Quels sont vos projets après la publication de cette thèse?
Après une recherche aussi longue, c'est vrai que j'ai essayé de sortir un petit peu de ce sujet stricto sensu des Roms tziganes pour m'intéresser plus largement aux minorités nationales en Europe centrale ou aux espaces de ségrégation en général, en sociologie. Puis finalement, ce sujet est revenu et de par l'actualité, aussi la maturité qui suit une thèse et un objectif, donc un projet que je suis en train de mettre en place, ce serait de faire une analyse comparée des espaces de relégation des populations tziganes en Europe. De comparer ces espaces qui s'apparentent donc à de nouveaux ghettos en Europe, chose qui est inédite. À la fois les banlieues, à la fois les bidonvilles qui se constituent aux alentours de Paris, de populations immigrées de Roumanie, de Bulgarie, les aires de stationnement d'accueil pour gens du voyage, encore un autre dispositif différent qui a été amalgamé l'été dernier par le gouvernement français, ces fameux espaces de relégation, d'exclusion sociale en République tchèque, dans les bordures des villes, les osadas en Slovaquie qui sont dans les campagnes, et les quartiers ethniques en Bulgarie et en Roumanie, ce qu'on appelle les quartiers mahala. Il me serait intéressant en effet de comparer ces espaces pour prétendre à une expertise précise sur des bases solides de la situation de marginalisation des tziganes en Europe.
Mathieu Pleyser, je rappelle que vous venez de publier aux éditions françaises de l'Harmattan 2 tomes de votre livre tiré de votre thèse qui s'intitule « Les tziganes ». Je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est avec la rubrique Panorama que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková.